7h24. Bon, on continue à parler du panier bleu qui a été présenté hier. En fait, ça fait quelques mois maintenant, mais appelons ça la nouvelle phase, qui fait en sorte qu'on aura un site transactionnel quelque part à l'automne. Puis là, on est en train de déterminer qu'est-ce qu'un produit québécois. On parle même d'avoir un code de bleu pâle, de bleu foncé. J'en parle avec le ministre responsable de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
Bon, mon ami et collègue Pierre McSween, Pierre-Yves, là, il trouve que le panier bleu, là, c'est de miser sur un nationalisme économique qui, en bout de ligne, n'est pas l'élément déterminant. Les gens, ce qu'ils regardent, c'est combien ça coûte, puis c'est ça qui est important. On veut tous acheter local, on comprend la vertu et le principe. Êtes-vous bien sûr que le panier bleu, c'est efficace?
Ben, écoutez, je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit. Par contre, je pense qu'il faut comprendre que on parle pas ici de battre Amazon. Ce qu'on parle, c'est une alternative québécoise aux géants du commerce électronique. Deuxièmement, le privé a participé, parce que la raison pourquoi on a pris du temps, on a été critiqué à l'époque, pourquoi on n'a pas lancé un site transactionnel, premièrement, c'était impossible de le faire en 2-3 mois, mais on a quand même sollicité, M. Dumas, plus de 4000 entrevues, le privé est au rendez-vous. Moi, je pense qu'on réagit aux demandes de commerçants. Il y a des commerçants qui nous disent, nous ne voulons pas investir, comme M. Simons a fait, nous ne voulons pas investir dans une plateforme, on aimerait que vous le fassiez pour nous, pour faciliter l'accès de produits aux Québécois. Alors, il ne s'agit pas ici de battre Amazon, je pense que M. Messoud a raison, mais on peut avoir une alternative. Moi, je pense que le Québec, on doit avoir des ambitions. On a des ambitions. Donc, on veut respecter un peu ce que le privé veut faire. Puis, il y aura des filtres, les gens vont pouvoir décider s'ils veulent avoir du bleu foncé, du bleu pâle. Les gens vont décider qu'est-ce qu'ils vont acheter. C'est pas au gouvernement, au panier bleu, de dicter aux consommateurs à quoi faire, mais on veut donner un filtre.
OK, mais M. Fitzgibbon, vous avez la réputation d'être quelqu'un d'hyper terre-à-terre, d'hyper concret, là. Quand on parle de vente, là, un panier bleu, site transactionnel, avec du bleu pâle, du bleu foncé. Moi, si je vais acheter chez Simons, je suis capable de trouver le site de Simons. Si je vais acheter chez, je sais pas moi, Sport Expert, je suis capable de trouver le site. J'essaie juste de comprendre là, à quoi ça va me servir d'aller sur le panier bleu.
Ben, écoutez, je pense qu'il y a des consommateurs, M. Arquin, qui veulent avoir un répertoire, voir des produits, décider s'ils veulent acheter local ou pas local, décider s'ils veulent acheter chez un commerçant détenu par des Québécois. L'exemple, je le tout le temps, est-ce qu'on peut faire des fraises du Québec chez Walmart? On peut faire une télévision coréenne chez un détaillant détenu québécois. Il y a des gens qui veulent avoir cette assistance-là. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose. M. Bezos, il a pris 200-300 millions de dollars et 15 ans à bâtir Amazon. Bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui existent. Donc, le panier bleu, là on jette les bases pour un écosystème numérique où on va prendre des systèmes québécois. Ça existe déjà. Les petites boîtes là, qu'on voit chez Amazon, c'est pas bon chez le monde. Là. Ben, c'est les Québécois qui livrent ça. Alors, venez, le système existe déjà. Là. Moi, je pense que le panier bleu, et ça qu'on a pris notre temps, M. Dumas a consulté des gens, ont réagi aux demandes des gens. Moi, je pense que c'est une alternative. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer vouloir aller sur le site pour eux-mêmes déterminer, ben, qu'est-ce que je veux acheter? Tu sais, c'est pas nous autres, c'est pas le gouvernement qui va dire, voici ce que vous allez acheter. C'est sûr qu'il y a un prix à payer. Les gens vont vouloir acheter québécois jusqu'à un pourcentage. Si tu dis 15, 20%, ça dépend des produits. Alors, ça, c'est une barre. Mais faut pas oublier que l'achat local pour le gouvernement du Québec, on va mettre beaucoup d'argent pour aider les entreprises à être plus efficientes. Et ultimement, dans plusieurs secteurs, j'espère qu'on va pouvoir réduire nos importations.
OK, mais là, on est dans le débat, finalement, c'est quoi un produit québécois? Alors, je vous donne des exemples, là, puis je sais que vous allez me dire la liste n'est pas faite, mais quand même. Là. J'achète une télé coréenne chez un détaillant québécois. C'est un achat local, ça?
On va dire aux gens, le produit, il est blanc, mais le commerçant, il est bleu marine. Alors, les gens décideront. Vous avez raison. On peut prendre l'exemple du gin du Québec. Moi, j'aime le gin, je vous suis sûr. Là. On va aller sur le site de la SAQ. Vous avez les trois couleurs. Hein. Vous avez le gin du Québec, là, vous avez blanc, bleu pâle et bleu marine. Bleu marine, c'est de la terre, donc du grain à la bouteille. Le blanc, c'est une propriété québécoise de gin distillé à l'extérieur du Québec qui est vendu. Puis le bleu pâle, ben là, il est deuxième distillation au Québec. C'est correct. Puis c'est pas à nous de décider c'est quel qui est le mieux. Le consommateur, Aliment Québec, c'est un bon exemple. Le consommateur a besoin d'informations, puis il décidera ce qu'il veut faire après.
OK, mais j'essaie de voir, là. Je vais sur le panier bleu. Exemple, est-ce que Walmart, qui a des magasins au Québec, mettons qu'ils vendent des produits québécois, Walmart participe au panier bleu?
Absolument. Absolument. Parce okay. que il y a des produits québécois. Puis en fait, les gens vont décider. C'est pas nous autres qui vont décider. Mais là, on veut des produits qui ont une ramification québécoise. Et d'autre part, tous les commerçants au Québec doivent être sur le panier bleu, puis on va identifier les produits qui vont vendre.
OK, mais Amazon, qui a des entrepôts, qui aura de nouveaux entrepôts au Québec, va être sur le panier bleu aussi, tant qu'à faire?
Ben, non. Techniquement, Amazon a son propre panier, mais tu sais, j'ai fait des farces jadis. Pourquoi pas un jour, on n'est pas là, que les gens sur Amazon qui veulent avoir des produits québécois, qui a une identification qui permet de savoir que le produit est québécois, peut-être, mais on n'est pas là. On focus sur une plateforme court terme. Puis encore une fois, on répond à un besoin. C'est pas moi dans mon bureau qui a décidé un matin que on va faire le panier bleu. On a sondé des gens, puis on a l'impression que les gens demandent ça. Évidemment, il y a des risques d'exécution, il n'y a aucun doute. Puis on parle toujours de se battre contre un gorille qui est Amazon, mais c'est pas ça le but. C'est pas de battre Amazon. Amazon ne disparaîtra pas. Je suis d'accord avec votre collègue.
Je vous écoute, là, puis sérieusement, j'ai de la misère à vous suivre. Dans le sens que je comprends l'objectif, là, mais la mécanique, le pourquoi, dans le site avec la banque, puis Desjardins, dans quelques mois, puis là, on va faire notre liste, puis là, des bleus foncés, des bleus pâles. Il me semble que le consommateur, moi, je me cherche une télé, là, je fais Google télé, puis là, je regarde ce qui est disponible, puis je me promène, puis après ça, je vais voir sur les détaillants. Je pense que les gens n'ont pas besoin de l'aide du gouvernement pour savoir comment acheter.
Premièrement, c'est pas le gouvernement, là. C'est le panier bleu c'est le privé qui va le prendre en charge. Deuxièmement, écoutez, on répond à un besoin. Les commerçants, là, il y en a plusieurs au Québec, il y en a 50 000, là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de plateforme électronique. Ces gens-là nous disent, panier bleu, pouvez-vous m'aider à le faire? Donc, on répond à une demande des commerçants. Puis deuxièmement, la technologie existe déjà. Là. On ne part pas ça à zéro. Là. Il y a des compagnies québécoises que je n'aimerais pas, vous connaissez très bien, une qui est une licorne aujourd'hui, ils ont les systèmes pour faire de la commerce électronique. Donc, on ne parle pas de... On n'investira pas 100 millions là-dedans ou le privé non plus. Mais en bout de piste, là, si le privé n'est pas au rendez-vous, on n'ira pas bien loin. Mais si le privé est au rendez-vous, c'est eux qui sont quand même capables d'opérer des choses comme ça. Alors moi, je pense qu'on a quand même... Encore une fois, pour conclure, on veut encourager local, on veut offrir une alternative aux géants numériques, alternative que les gens veulent avoir.
OK. Parlons des commerces qui sont fermés puis des biens qui sont considérés comme essentiels. Là. Je me souviens, au printemps, les grandes surfaces vendaient de tout. Là, maintenant, les grandes surfaces vendent ce qui est essentiel. Rien n'est parfait, mais là, on arrive à des situations un peu bizarres. Qu'en hiver, chez Jean Coutu, tu ne peux pas acheter des mitaines. C'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation, M. Fitzgibbon?
Écoutez, vous rappelez, au printemps, on avait la discussion, vous et moi.
Oui.
Le ministère de l'Économie était responsabilisé pour déterminer essentiel, pas essentiel. Et là, quand on est sorti de la sortie du confinement, nous avons recommandé, laissons aux entreprises... la définition essentielle pas essentielle. Je pense qu'il faut suivre les entreprises. Dans l'exemple que vous donnez, je regardais l'exemple de votre collègue, M. Lagacé, en fin de semaine, il avait raison, la femme de madame qui a acheté une carte de souhait, de condoléances. Il y a des choses qui nous apparaissent un peu bizarres. De l'autre côté, bon, le magasin de cartes en avant de la rue, qui lui est fermé, ben, il ne vend pas de cartes, donc peut-être que c'est normal qu'on ne vende pas des cartes. On avait eu le problème avec Dollarama, vous vous souvenez, Walmart qui vendait du barbecue. Alors, je pense qu'on a décidé de laisser aux gens le soin d'éterminer ça.
OK, attendez, je veux juste comprendre une affaire, là. Moi, mettons que je suis un pharmacien Jean Coutu, là, je vous écoute ce matin, puis je comprends que c'est avec ma maison mère, là, c'est moi qui décide si je vends des mitaines ou pas, c'est tout ça?
Exact. Exact. Le côté essentiel, le décret ministériel a identifié des produits non essentiels, mais c'est pas exhaustif. On a voulu laisser aux gens le soin de faire une détermination. Donc, chez Jean Coutu, la personne en fin de semaine qui a décidé que la carte de soie n'était pas essentielle, elle a porté jugement sur ça. Et bon, on peut argumenter, mais moi, je supporte ce jugement-là. Là, on est rendu, de toute façon, il reste quelques semaines. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'aberrations. Il y a un consommateur qui m'a interpellé, qui était choqué, parce qu'il a acheté la peinture rouge, puis il n'a pas pu l'acheter, parce que c'est la peinture blanche qu'on vendait. Donc, le commerçant a déterminé que...
Vous êtes en train de me dire que ce sont les commerçants qui ont été épais?
Non, c'est pas ce que je dis.
Bien, si vous dites que ça leur appartient, le commerçant qui ne veut pas vendre une peinture de couleur, ou là, le commerçant qui dit, ben je peux pas te vendre un lacet pour ta botte de travailleur, c'est pas le gouvernement qui a décidé ça, c'est lui. Allô?
Non, M. Arquin, on parle de... rénovation versus décoration dans ce cas-ci, là, la peinture. On parle de toilettage. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été parfaites, mais qu'on va ajuster. Là, le 8 février, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'on a voulu laisser une partie de la responsabilité aux entreprises. Je pense que ça a été correct, c'était une bonne décision. Il y a certaines aberrations qu'il faut corriger. Alors, si on verra ce qui va arriver en février, et s'il faut reconduire un confinement quelconque, on pourra corriger certaines erreurs qui ont été faites.
OK, mais moi, là, je suis un assez concret, là, puis mes auditeurs se demandent, là, par exemple, puis là, je reviens à Jean Coutu, on peut-tu, si Jean Coutu me vend des mitaines, c'est légal?
Écoutez, Jean Coutu, on a le même problème qu'on avait avec les autres magasins Walmart à l'époque. Walmart a décidé au mois de mars qu'il pouvait vendre tout ce qu'il était dans le magasin. On avait conclu après, à juste titre, que ce n'était pas équitable pour des commerçants qui, eux, n'avaient pas des biens essentiels. Genre
OK, mais une mitaine l'hiver, mettons que c'est assez essentiel.
Oui, une mitaine l'hiver, techniquement aujourd'hui, on peut commander avec livraison au trottoir. Donc, dans le contexte de bien sentir...
Là, vous m'aviez simplifié ça, là, vous êtes en train de me recompliquer ça, là. Moi, là, vous me dites que c'est le commerçant qui a la responsabilité de déterminer l'essentiel, pas essentiel. Puis là, vous me dites, ben là, tu peux commander... On recommence la maison des fous, là.
Non, mais écoutez, là, on retourne un peu en arrière. Le principe de base, c'est que les biens essentiels, c'est alimentaire, pharmaceutique, les soins. Donc, ça, c'est assez clair. Maintenant, ce qu'on a décidé, c'est que les commerces qui ne vendaient pas des biens essentiels, qui étaient assez clairs, étaient fermés. Après, on a permis à tous les commerces de vendre des produits avec livraison au trottoir pour empêcher le rassemblement. Là, ça peut être tous les produits qui vont être vendus comme ça. Donc, techniquement, vous pouvez aller... l'exemple de votre collègue, M. Lagacé, la carte de souhait était considérée non essentielle. Conséquemment, elle pouvait, par contre, être livrée sur la rue comme tous les autres biens. Alors, c'est une détermination qui avait été faite. On a voulu permettre au commerce de continuer à opérer et de respecter les règles de non-rassemblement. C'est ça qui était la logique à l'époque.
Sérieusement, là, moi, j'essaie de rendre ça clair pour les gens, là, puis je vous le dis, là, il n'y a plus personne qui comprend rien de ce que... Tu sais, moi, je suis une mère de famille, là. Je rentre dans une pharmacie parce que mon enfant a perdu ses mitaines à l'école, puis là, il faudrait que je commande en ligne, puis d'attendre, puis d'aller le rechercher à l'extérieur. Je veux bien la pandémie, là, mais je pense pas que la COVID va me sauter dessus si je fais ça, là. Si je rentre, j'ai le droit de rentrer dans une pharmacie. Pourquoi je peux pas l'acheter?
Écoutez, M. Arcand, on parle du principe de base. On a voulu...
OK, respecter... mais moi, je vous parle de la vraie vie. Entre le principe de base, la volonté, puis la vraie vie, là.
Écoutez, on peut parler de 52 exemples. Chaque exemple qu'on peut trouver peut montrer une aberration, mais il faut revenir le principe de base. Le principe de base, c'est qu'on veut limiter les rassemblements dans les magasins parce que Santé publique a déterminé qu'il y avait un risque de contagion. Bon, ça, c'est un. Qu'est-ce qu'on permet de vendre dans les magasins? Bien, il faut se limiter à des choses qui sont considérées essentielles. C'est sûr qu'une mitaine pour un enfant de 2 ans, c'est essentiel. Mais d'un autre côté, il faut mettre une ligne à un moment donné. Quand vous rentrez chez Dollarama, il y a des rubans rouges à un moment donné. Vous aviez acheté un toaster, bien là, il n'est pas disponible. Alors, à un moment donné, il faut tirer une ligne à quelque part. Il n'y a rien de parfait. Alors, je pense que dans les circonstances, écoutez, il y a des choses qui sont aberrantes. Le principe de base, je pense qu'il y a là.
Non, le principe de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'achalandage commercial, mettons qu'on comprend pourquoi ça se défend, mais le jour où tu reconnais que des épiceries sont ouvertes, que des pharmacies sont ouvertes, là, je ne parle pas de gens qui veulent acheter, ils peuvent toujours le faire en ligne, mais il y a certains produits, tu te dis, là, c'est des chargeurs de cellulaire, puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, la liste est longue, je comprends, mais est-ce que je traduis qu'il y a des commerçants qui font du zèle dans l'application des mesures?
Bien, écoutez, c'est géométrie variable, M. Arcand. Vous avez raison, mais écoutez, ce qu'il aurait fallu faire, là, c'est mettre en décret. Bon, on aurait pu penser que les mitaines pour les enfants devraient être un bien essentiel. Peut-être, mais écoutez, il y a une limite de l'intellect qu'on peut faire. Là. Donc, on n'a pas pu faire ça. Donc, on a laissé un jugement. Puis le jugement, c'est la géométrie variable. Puis la personne, la gérante du magasin, elle décide la carte de souhait, de sympathie. N'était pas essentiel. Elle avait une logique que je respecte, alors qu'une autre aurait pu dire, non, je le vends, mais écoutez, on parle de quelques semaines, on parle de quelques exemples. Vous avez raison, c'est aberrant quand on le regarde comme ça, mais il faut tourner à la base, je pense. La base, je pense qu'elle est solide.
Pensez-vous qu'on va rouvrir un peu les commerces sous peu, là, c'est-à-dire peut-être avec un couvre-feu, là, mais quand même là, qu'il y ait un petit retour à une forme de normalité?
Écoute, on veut tout ça. Et il y a des discussions aidantes. Les décisions n'ont pas prises encore au bureau de Soyeux-Unis, M. Dubé et M. Lagouta. On est tous unanimes qu'on veut. Donc, on voit les vaccins qui s'améliorent. On voit la baisse des hospitalisations. Il y a deux matrices importantes, là. La vaccination les taux d'hospitalisation. Et si on veut tous sortir de ce marasme-là, il y a la décision de vite qui va devoir être prise par le bureau de soins. C'est ce qu'on ouvre temporairement, ce qu'on attend. On regarde toutes les options parce qu'on sait très bien que les gens, les décisions qu'on a présentement, c'est pas une bonne discussion. Là. On veut y vendre les cartes de Noël, les cartes de souhait. Alors, on veut tout ça. Alors, on va espérer qu'on peut peut-être réouvrir progressivement. La décision va être prise dans les prochains jours.
OK. Merci, M. Fitzgibbon.
Merci.
Au revoir. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'Économie et de l'Innovation.